Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver sur la route inconnue. Vous pourrez entendre au cours de cette émission les chroniques de Jean Antonini, Jean-Claude Touzeil et Jacques Morin. Et je vous propose, quant à moi, de redécouvrir aujourd'hui deux auteurs, Olav Auge et Georges Bonnet, deux poètes attentifs aux choses et au rythme de la nature. Olav Auge, poète norvégien, né le 18 août 1908 à Ulvik et mort le 23 mai 1994 à Ulvik, après avoir passé sa vie à Ulvik. Enfin, c'est un peu plus compliqué que cela, vous allez vous en rendre compte. Toujours est-il que son terroir est au cœur de l'œuvre d'Olav Auge, un terroir qui n'a rien de bucolique. Ulvik est un village situé au cœur du Hardanger, une région très rude, fjord, glacier, au plateau sauvage du Hardanger Vida. C'est un de ces pays difficiles que le poète Kenneth White affectionne. Un pays difficile et somptueux, grandiose, un peu inhumain et sans aucun doute autant source d'angoisse que d'émerveillement, et l'on retrouve d'ailleurs ces deux sentiments dans l'œuvre du poète norvégien qui, durant 30 ans, a souffert le martyre de la schizophrénie avant de trouver une certaine sérénité à la fin de sa vie, 30 ans pendant lesquels, je vous expliquais que sa vie était un peu plus compliquée qu'il n'y paraît, Olav Auge n'a cessé de faire des allers et retours entre Ulvik et l'hôpital psychiatrique. Olav Auge exerçait la profession de jardinier, il dirigeait un petit verger de pommes et le reste du temps, eh bien, il a lu, écrit, traduit en norvégien les poètes qu'il aimait, Tennyson, Yeats, Mallarmé, Rimbaud, Tracle, Celan et Char, entre autres. Sa propre poésie classique, au départ, a rapidement atteint une puissante originalité. C'est une poésie simple, magnétique, à la fois pleine de tendresse et de puissance. Une poésie qui interroge la place de l'homme dans la nature, dans la création. En le lisant, on peut penser notamment à l'américain Henri Thoreau ou au poète de haïku japonais Basho. Mais je ne vous en dis pas plus. Place à la poésie d'Olav Auge. Ne viens pas à notre rencontre avec un chien de garde qui aboie, un poing fermé qui menace. Un cri, sors de mon champ! Mais de bon matin, montre-nous ton verger. Les queues de loup tintent les dernières clochettes rouges. Le vent du soir caresse l'herbe oubliée. Personne n'a frayé le chemin que tu vas parcourir dans l'inconnu, dans le bleu. C'est ton chemin, seul, tu vas le parcourir. Il est impossible de revenir en arrière. Toi-même, tu ne peux y laisser des traces. Le vent efface tes pas dans la montagne nue. Ce matin, à mon réveil, les vitres étaient couvertes de givre. Je me tenais au chaud dans les braises d'un bon rêve, et le poêle répandait dans la pièce la chaleur d'une bûche mijotée toute la nuit. Il descendait de la montagne, il rentrait chez lui. On lui a fait traverser le fjord depuis Osa jusqu'à Høyvindstø. Il a ouvert la main ouverte, il a offert de payer, mais le passeur d'Osa n'était pas à vendre. « Je veux payer, j'habite trop loin pour te rendre l'appareil. »« Eh bien, rends service à quelqu'un d'autre, » dit l'homme d'Osa, et il retourna vers l'autre rive. pas la racine qui s'enfonce dans le gravier dur, ni la radicelle, ni l'épine, ni le tronc dans la tempête, ni l'humble branche, ni la liane, ni l'écorce dans le gel et la neige, ni la sève qui monte, ni la force qui fait croître, ni le fruit, ni la graine, ni la feuille qui construit en silence sa cathédrale. Tu seras seulement la fleur étincelante. Je suis si vieux que je m'en tiens à la faux. Tranquille, elle chante dans l'herbe et les pensées peuvent aller. D'ailleurs, ça ne fait pas mal, dit l'herbe, de tomber sous la faux. Quand je me réveille, un noir corbeau frappe à mon cœur. Ne vais-je plus jamais m'éveiller à la mer et aux étoiles, au bois et à la nuit, au matin avec des chants d'oiseaux? L'été était froid et pluvieux, les pommes étaient vertes et piquées. Cependant je les cueille et je les trie et je les range dans les caisses à la cave. Des pommes vertes valent mieux que pas de pommes quand on vit ici, au 61e parallèle nord. Et j'étais triste et me terrais dans une grotte. J'étais gonflé d'orgueil et bâtissais au-delà des étoiles. Maintenant je construis dans l'arbre tout proche. Et le matin, quand je m'éveille, le pain enfile dans ses aiguilles des fils d'or. Chant, chemine léger sur mon cœur, chemine léger comme la bruyère des marais sur la fagne détrempée, comme l'oiseau du matin sur la glace d'une nuit. Briserais-tu l'écorce de ma peine, tu te noierais, chant. Je veux écrire chaque jour un poème, chaque jour. Ce doit être assez facile. Browning s'y était mis. Il faisait des rimes et battait la mesure avec ses sourcils en broussailles. Donc, un poème par jour. Quelque chose te surprend, quelque chose arrive, quelque chose attire ton attention. Il fait jour, je me lève avec les meilleures intentions et je vois le bouvreuil qui s'envole au-dessus du cerisier où il pique mes bourgeons. Demande au vent quand il est à bout de souffle. Il voyage loin et revient souvent avec les bonnes réponses. C'est le rêve que nous portons, que quelque chose d'extraordinaire va arriver, que ça doit arriver, que le temps va s'ouvrir, que le cœur va s'ouvrir, que les portes vont s'ouvrir, que la roche va s'ouvrir, que le rêve va s'ouvrir, qu'un matin nous glisserons sur la vague vers une anse inconnue. Ce dont je me rappelle de l'enfance, c'est le vent. Aujourd'hui, il ne reste plus du tout de vent, plus de vent et plus d'oiseaux. Que va-t-il arriver? La montagne ne m'attire plus. J'ai vécu assez longtemps au milieu des glaciers froids. Pourtant, je file encore mon chemin dans les bois, écoutant les vents d'automne, faisant halte au bord des étangs, suivant les rivières. Même tard dans l'année, tu peux y trouver des airelles. Si tu veux aller plus loin, il te faudra traverser les montagnes. Les pics peuvent bien rester plantés là où ils sont. Nouvelle nappe jaune sur la table et nouvelle feuille blanche. Ici, les mots doivent venir. Ici, sur une si belle nappe, sur un si beau papier. La glace s'est étendue sur le fjord. Alors les oiseaux sont arrivés et se sont posés. Pas en auto, ni en avion. Il te faudrait un traîneau à foin ou une carriole brinque-ballante ou le char de feu du prophète Élie. Tu n'iras pas plus loin que là où Bachot est allé à pied. Le chat est assis dans la cour lorsque tu arrives. Parle un peu avec le chat. À la ferme, c'est lui qui sait. Il a remarqué une chose, le vieil Alvor. Les bouleaux poussent seulement le matin. Ça, c'est une bourde. Je crois qu'on grandit en dormant. La pie s'envole. Elle ne fait pas son nid dans l'arbre mort. Chevaux et vagabonds cherchent des yeux une auge au bord des routes. À quoi leur servirait une station-service? Devenir souverain de l'Empire céleste, ça t'aurait bien plu, Lippo. N'avais-tu donc pas l'univers entier, les nuages, le vent et les béatitudes de l'ivresse? Il est plus noble encore, Lippo, de gouverner ton propre cœur. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait un bon poème. Les oiseaux piaillaient au jardin quand je suis sorti, et le soleil était doux sur les hauteurs de Berga. Être né mouette et finir ainsi. Les autres là-haut planent dans l'orage, et toi, perché sur un écueil, tu t'égosilles. Tu vis sous la pique, tu le sais, mais tu sèmes ton jardin, tu consolides ton toit, et tu laisses tes enfants jouer, et tu te couches comme si de rien n'était. Peut-être appuyé sur ta faux, un soir d'été, tes yeux se fixent là-haut sur la paroi. Là, dit-on, se trouve la faille. Peut-être allongé, éveillé, tu entends la chute d'une pierre dans la nuit. Et quand l'éboulement survient, cela ne t'étonne pas. Alors tu déblais le petit arpent vert sous la montagne, si tu es encore en vie. Aujourd'hui, les flocons de neige dansent comme des reines dans le soleil. La rivière cravache sur le chemin du retour, emportant l'hiver avec elle. Le pluvier doré est là, et les pentes vertes. Voilà, c'était donc quelques poèmes seulement de Olav Rouge, un poète norvégien magnifique. Alors, à ma connaissance, il n'existe aujourd'hui que 3 livres de Olav Rouge traduits en français. Il y a Nord profond, paru en 2008 aux éditions Bleu Autour, traduit du néo-norvégien par François Monet. Cette nuit, l'herbe est devenue verte, publié en 2007 par les éditions Raphaël de Surtis. Et dernièrement, Le bateau de papier, publié chez Poepsi, traduction d'Anne-Marie Soulier. Vous avez le droit, vous aussi, d'applaudir chez vous, Chet Baker, ses Peanut Bells. Nous reprenons le cours de la route inconnue et rejoignons sans plus tarder Jean Antonini, créateur, co-créateur de l'association francophone de haïku, directeur de publication de la revue Gong et l'un des grands spécialistes français du haïku.
La guerre de 1940-45, le Japon est allié à l'Allemagne contre l'Angleterre et les États-Unis, va interrompre l'intérêt des poètes français pour le genre poétique japonais. Pratiquement plus de publications de poèmes courts entre 1940 et 1980. Ce sont les traducteurs d'une part et les lecteurs de la poésie beat américaine qui vont relancer la pratique du haïku en France. Parmi les traducteurs, citons René Sieffert, qui va traduire à peu près tous les textes publiés par Bachot et son école sur une trentaine d'années aux presses orientalistes de France. De Le Haikai selon Bachot, cette anecdote. On avait invité Bachot à entrer dans une boutique à thé pour écrire un poème. La femme lui dit « J'étais une courtisane de cette maison ». Et à présent, le patron a fait de moi son épouse. Alors le poète écrit « Senteur d'orchidée, aux ailes du papillon, s'est communiqué. » Alain Kerverne traduit le grand almanach, Saijiki, des mots de saison japonais, Kireji, en 5 volumes aux éditions Follavoine. Il publie lui-même des poèmes courts. L'horizon cicatrise, un goût de métal dans ma bouche. Joueur de boules, un art poétique dont je ne connais rien. L'univers qui grandit a déposé ses œufs quelque part en ville. Maurice Coyot est connu pour l'anthologie du haïku japonais Fourmis sans ombre, qui a servi de référence aux poètes de haïku français et canadien-français actuel. Publication aux éditions Phébus en 1978. Voici quelques extraits de sa préface. Dans la jarre d'eau flotte une fourmi sans ombre. Seishi. Qui veut trop dire ne dit rien. À l'inverse, il n'est pas toujours vain de se mettre à l'écoute de ce qui a l'air de ne rien dire. Brume et pluie, Fuji caché, mais cependant je vais content, Bachot. Quelle trace de lui-même le bonheur peut-il jamais laisser? Quelle trace la beauté, toujours entrevue? Le foulard de la fillette, trop bas sur les yeux, un charme fou, Busson. Le haïku tire sa dynamique du vide. Telle est la vertu de son insignifiance. Tout le monde dort, rien entre la lune et moi. Sei Fujou. Ma règle de traduction, ne pas chercher à remplir ce qui doit rester accueillant au vide. Sorties de la cage, elles deviennent une à une, les lucioles, des étoiles. Sei Sensui. Difficile de citer ici tous les traducteurs de haïku de la fin du XXe siècle. Mentionnons aussi Collet et Cheng, qui ont fait connaître beaucoup de poètes japonais dans la collection Mundaren, en particulier les poètes Shioni, Santoka et Ozai. Désir de femme profondément enraciné, les violettes. Papillon. En colère comme tout le monde, un jour ou l'autre. Shioni, 1703-1775. Toute la journée, sans un mot, le bruit des vagues. Pas de saké. Consterné, je regarde la lune. Santoka, 1882-1939. Profonde solitude, je bouge mon ombre histoire de voir. De critiquer les autres, mon cœur a cessé, j'écosse des fèves. Hosaï, 1885-1926.
Il s'appelle Georges Bonnet, il est poète, écrivain et d'une discrétion remarquable. « J'ai eu deux vies », explique Georges Bonnet. Né en 1919 à Ponce, en Charente-Maritime, le poète a d'abord été professeur d'éducation physique, quoique diplômé en philo. Mais voilà, Georges Bonnet est doué en sport et même très doué, particulièrement en handball, ce qui lui a valu quelques sélections en équipe de France dans les années 50. Nous voilà bien loin de la poésie, me direz-vous, certes, mais et la poésie est arrivée dans la vie de Bonnet à l'âge de la retraite, si l'on accepte une petite plaquette publiée en 1965. Mais le premier vrai livre de Georges Bonnet, Le Veilleur de Javel, est sorti en 1983 dans la revue Oracle, qui était dirigée à l'époque par le poète Jean-Claude Valin. 1983, eh bien, comptez vous-même, Georges Bonnet avait 63 ans et depuis, eh bien, il a écrit 22 autres livres, dont son premier roman, Un si bel été, paru chez Flammarion en 2000. Il arrive, vous voyez, que parfois la valeur attend le nombre des années et la surprise n'en est que plus belle. Sur la poétique de Bonnet, eh bien, je ne m'étendrai pas. L'auteur lui-même est avare d'explications à son sujet. Je me bornerai à citer Pierre Desnaux, qui a postfacé le choix de texte de Georges Bonnet, paru il y a quelques années déjà, maintenant aux éditions Le Des Bleus, sous le titre « Tout bien pesé ». Écoutez Pierre Desnaux. « Nous nous plaignons de ne pas être au monde. En fait, le plus souvent, nous sommes incapables de le rendre présent. Trop de grands mots abstraits nous empêchent de regarder vraiment et d'écouter. Et c'est ce qui rend si difficile de parler de l'œuvre de Georges Bonnet. Jamais il ne définit, de même que jamais il ne prétend s'ajouter, affirmer. Il ne questionne que pour mieux accueillir. Le « je » ici intervient fort peu, de moins en moins, remplacé par le « nous », le signe d'une complicité avec ces humbles choses qui réclament leur dû. Le poème est leur épiphanie, il n'a nul besoin d'être long pour être immense, en cela semblable au regard, à l'écoute, il donne chance à ce qui nous semble isolé d'habitude, éteint, il fait naître ainsi mille coïncidences ou connivences, ces liens, le rythme les établit en secret, chaque poème frémit, chaque instant ouvert qui ne choisit pas entre blessure et rire comme entre éphémère et durée, tout y rencontre enfin sa juste place. Oui, tout bien pesé avec Georges Bonnet, c'est-à-dire raviver, remercier, sanctifier. Voilà, très belle postface de Pierre Desnaux. Et maintenant, eh bien, je vous propose d'écouter quelques poèmes de Georges Bonnet, extraits de ce même livre paru aux éditions Le Des Bleus, « Tout bien pesé ». On retrouve le frémissement de l'aube au bleu des blés, cette seigneurie de racines. Un souffle suffirait pour que le paysage dépasse de son masque, que le combat des murs se change en rosée. Le silence, son visage de grand brûlé, la ferme blanche, haute couronne d'hectares, l'été dans les charbons des blés. Tous nos morts qui reculent un peu plus chaque jour. Une heure tourne au décolleté de la fenêtre. Le lys près du figuier n'a plus rien à dire. Les villages trottinent. Quelqu'un murmure que l'enfant mongolien est mort de solitude. sur la colline, la terre et le ciel, peau contre peau. Nuages et labours font route ensemble. Les fumées qui s'entremêlent sont heureuses divagations. Une tourterelle sur un mur, l'envol d'un busard, l'odeur des sous-bois suffisent alors pour s'assurer de vivre. Après la friche, le jour prend sa toux de luzerne. On regarde sur les têtards, repousser les moignons. De petites graines germent aux plus pauvres de l'âme. L'été s'en va, laissant ses yeux, son parfum d'herbe et d'eau. Comme dans les années rondes, les pommes sont belles, la rivière nue. Une bouteille au soleil lisse ses plumes. Quelques fleurs atténuent la fatigue de l'église. À l'aide d'un vieux mur, j'escalade l'automne. Le verger pressant sa transparence. Un tombereau debout implore le ciel, l'absence d'orthographe enchante le jardin. Tout est lointain, comme ces cris d'hirondelle de l'entre-deux-guerres. La roue d'une brouette crache le fer. Un brouillard se lève à faire taire les miroirs. Quelques pierres naissent de très grandes fatigues. La vie passe et l'on voit encore la lune allaiter ses roses de vieilles déraisons. De lentes géographies irriguer les miroirs, le futur se rassasier sur la pente des collines. La porte parfaite est au bout du chemin. La friche peureuse est morne, même sous un ciel heureux. Aux membres déformés, et aux yeux de pauvresse, fut marié tout le jour à la chaleur d'un feu. Maintenant, elle nous suit des yeux, du fond de son silence, comme quelqu'un qui se souvient. Demeure la silhouette blanche des prés, ce vin d'oiseau, cet écartement entre deux appels. Le soir, la plaine s'écoule vers la vallée. L'attente révèle ses navires. La mort d'un arbre rassemble les vents. Inutile de tendre l'oreille. Ici, jour et nuit, nous assiège le roulement de la mer, énorme, continu. Il s'assouvit en nous, remplace notre souffle, prêt à nous assumer au-delà de la mort. Vergers asservis, Christ noir, palissés sur les murs. L'horloge infirme s'appuie contre l'armoire. Le jardin du presbytère est nu par sainteté. La modestie des choses engendre le silence. au-dessus du champ aveugle, où s'agenouille la neige, un rêve étendard sert de guide. Des noces muettes sont célébrées très loin de nous. Un oiseau chante un miracle qui n'aura pas lieu. La forêt s'enferme dans sa musique de sourd. Le ciel plus pauvre qu'un oiseau agonise sur les toits. Maintenant, j'écoute le fœtus de ma mort marcher en ses vergers. Avons-nous encore sur les doigts le sucre des bonbons retrouvés au grenier dans une boîte de fer blanc? L'odeur d'un tonneau vide de la cour monte jusqu'à nous, et celle d'une friture à sa juste place dans l'ordre de la journée. De la lucarne, on peut voir l'école des sœurs en son jardin de roses mortes. Le vide de la place autour de la fontaine qui sans relâche active le cours d'un dimanche saigné à blanc. Et les piliers du portail sont crêtés de fientes grises et les sentiers alentour s'avancent sans armes. Herbes et feuilles, mimosas en guenille, cachent une grossesse. Le soir, un linge gris flotte sur la haie. Les oiseaux et les morts se disputent les miettes. Les cloches labourent les âmes. Il reste une main dans le bénitier. Et revoici les inévitables craquelures, les herbes qui y guérissent. Ne tombez jamais dans la verdure des autres ou l'ossuaire des bossus. Deux glaïeuls soulèvent une gorge hésitante, haleine de feuilles mortes et dernières hirondelles se confondent. Y a-t-il encore un silence heureux? Le beau temps aiguise ses coques. Ils sont morts, les maléfices. Lune rissolée, trompette entremetteuse, bourrade de ravins. Au cœur des livres, le sommeil terrasse les images. La chambre caressée se couche, les miroirs sont en couleur. Pour l'amour des orangers, un aveugle ouvre sa nuit. Une clochette tinte à la barrière d'un jardin. Des rencontres se font, se défont, sur un coup de dé. Un feu s'éteint et le vent dévoile les signes de la cendre. Des traces de sang ont séché sur une hache. Lentement, les cartouches vides se remplissent de terre. La débroussailleuse a broyé tout le jour racines et ronciers, l'épi occupé la clairière, le figuier nain étouffé par les chênes s'est offert sous le soleil une tristesse luxueuse. Le soir venu, j'ai dû porter en moi ma mère qui avait franchi sa nuit et s'imposait en d'infimes remuements. Un enfant pétrit un peu d'argile et lui donne visage avec deux perles noires. Des pommes dans un panier sont une tentation inspirée d'un tableau. Sur la route, les passants, un à un s'effacent et toujours le même écart demeure entre leurs yeux et le bonheur. On entend les rouges exclamations des tuiles sous l'averse et les crissements dans la pierraille d'un ramier superbe qui marche sans rien voir. Au hasard des jours, un adolescent se jette du 10e étage. Les insectes s'immiscent entre murs et cloisons. L'enfant retardé s'étonne d'un miroir. La page d'un cahier est arrachée pour une tâche. Ainsi s'épuise lentement le temps. Le ciel se voûte sur la misère. L'astre mort depuis 1000 ans nous poursuit encore. Les ornières, chaque soir, saignent doucement. Quand l'amitié est tendue comme un pont, entre jardins et maisons, aux façades murmurantes, le jour va son train tranquille, chaque chose bien à sa place, en sa signification. Les fleurs s'adonnent aux abeilles, le ciel est buissonneux sur ces tréteaux anciens. Alors un vieux livre, le bonheur d'un enfant, une odeur de lilas, font que rien n'a plus d'importance. Voilà, c'était des extraits de « Tout bien pesé », un livre de Georges Bonnet paru aux éditions Le Dé Bleu. Alors, les éditions Le Dé Bleu de notre ami Louis Dubot n'existent plus, mais le catalogue, lui, est toujours disponible aux éditions Éclat d'encre. Vous pourrez, sans nul doute, vous procurer le livre de Georges Bonnet en tapant « Éclat d'encre » sur votre moteur de recherche. Voilà, on écoute un peu de musique avant de retrouver la revue des revues audio de Jacques Maud, directeur de la revue des charges, partenaire de la route inconnue.
C'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demain, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier au Hensler, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle. Sur le canapé du bordel, je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent? chevet des oies sauvages qui criaient la mort au passage. Au-dessus des maisons des quais, je les voyais par la fenêtre. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune mais pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches. Et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte les civils. Remets du rime à la Tessile, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin le suivent comme des soleils?
Une interprétation très singulière de « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» de Louis Aragon par le grand Bernard Lavilliers. Comme promis, eh bien nous rejoignons sans plus tarder Jacques Mau pour sa revue des revues audio du mois.
Revue du mois audio numéro 21, Les hommes sans épaules numéro 39. La revue Les HSE est pleine comme un œuf. Son sommaire court et sur la première page et sur la quatrième de couverture. Avant l'éditorial signé Yves Bonnefoy, excusé du peu, avec son discours inédit de Guadalajara, où il parle superbement de la poésie, des langues entre elles et en l'occurrence de l'espagnol, et de ses affinités avec les poètes mexicains, un communiqué pour prendre date à propos de Charlie et du massacre de ses héros pour la liberté. D'abord Lucien Becker, un grand poète de l'amour charnel, comme l'évoque Christophe Dauphin, né et mort en Lorraine, 1911-1984, commissaire de police à Marseille, comme le fut Jean Rousselot. La main de l'homme n'est vraiment vivante que quand elle s'enfonce entre deux cuisses pour y chercher un sexe qui se laisse découvrir comme un fruit dans l'herbe. Claude Vigée, poète alsacien né en 1921, haute figure de la poésie française. Mais demain, je devrais lutter sans défaillir contre les mythes voraces aux fines ailes soyeuses qui mangent nuit et jour, tout au fond de l'armoire, la douce laine de la mémoire. Derek Walcott, poète antillais de langue anglaise, prix Nobel de littérature 1992, dans le jour du seuil, point de niquer dénouant sa sandale, mais une fille frottant le sable de ses pieds, une main sur le chambranle. Annie Salagère, prime à l'armée 2011, dans un chêne multicentenaire, des cigales à ressasser sans discrétion, la seigneurie du soleil. Encore Jean-Louis Bernard, Alain Brissiot, Denis Vetterwald. Le gros dossier, c'est Alain Borne, centenaire de la naissance du grand solitaire. Né en 1915, mort dans un accident de voiture en 1962, il fut avocat à Montélimar. Ce fut un grand poète de la Résistance qui refusa la vie littéraire parisienne et un grand poète de l'amour. Christophe Dauphin, qui présente le poète, associe son nom à ceux d'Aragon, Pierre Segers, Pierre-Emmanuel dans le premier cas, et ceux de Paul Éluard, Marc Patin et Lucien Becker dans le second. Henri Rode, qui fut son ami pendant l'occupation, le décrit ainsi. Avec la mélancolie un peu hautaine qu'il dégageait, la présence séduisante, la réserve un peu sombre, impénétrabilité bourgeoise, chevalerie provinciale, grand archange triste et conclu par l'énigme borne. Le choix de texte qui suit met bien en avant le poète de l'amour. Je vais t'aimer, je vais ne plus rien vouloir dans mes yeux que ton visage. Mais mon désir de toi est une nébuleuse où je crie déjà des étoiles neuves. Il faut bien que je tombe, adorer tes genoux et toucher la tiédeur scandaleuse de ce nid de soleil. Mais il achève un autre poème par cette clausule. C'est contre la mort que j'écris. Ses poèmes à la fin sur la tauromachie renouvellent joliment sa thématique. Poursuivre, Youssef Komunyaka, poète né en 1947 en Louisiane. Il a pris le nom de son grand-père venu de Trinidad. Il a connu la discrimination raciale, la lutte avec Martin Luther King, la guerre du Vietnam où les Noirs enrôlés furent majoritaires. La langue est devenue une addiction. Il obtient en 1980 une maîtrise d'écriture poétique et devient un universitaire réputé. La poésie me permet de comprendre qui je suis. J'ai besoin d'embrasser le mystère afin d'être tout à fait humain. Extrait de Tunnel. À travers des pous argentées, de la merde, des vers et un relent de peste, il avance le bon soldat, sur les mains et les genoux, perçant à tunnel à côté de la mort, plaqué dans un coin aveugle, amoureux du poids du fusil qui un jour creusera sa tombe. Jean Pérol, enfin, né en 1932, 20 ans au Japon, l'art est un immense combat contre la bêtise. Il donne des inédits avec le titre à la fin. J'ai décidé de ne plus revenir sur mes pas. J'ai décidé de suivre le premier chemin qui sourira devant moi. Il me mènera à ma mort comme il veut. Il faut s'attendre à être seul. Une forte livraison de 300 pages, et encore je n'ai pas tout à fait été exhaustif, toujours une sacrée performance. Référence sur la page d'accueil du site, comme d'habitude. À bientôt.
À dans un mois, très précisément, cher Jacques, pour une nouvelle revue des revues audio. Je vais tirer ma révérence à présent. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à notre écoute. Il nous reste un dernier petit rendez-vous. C'est le clin d'œil plein de malice de Jean-Claude Touzeil. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle édition de La Route Inconnue.
Alors bonjour, aujourd'hui dans la petite chronique, on va lire des poèmes de Michel Lautru, qui est un poète de la région d'Alençon. Ce sont des extraits d'un livre intitulé « Autour de tout », édition Côte Cody. Les roses du jardin. En plantant les roses du jardin sur tes rideaux blancs, j'ai pensé te faire plaisir. Mais au petit matin, quand tu es rentré, elles étaient fanées. Depuis, j'accroche des éléphants, ça tient plus longtemps. Et quand l'un d'entre eux barille, ça me tient compagnie. Les doigts pleins de confiture. Les doigts pleins de confiture, elle colla toutes les touches du piano. Le mi avec le fa, le si avec le do, transformant Mozart en techno, lançant la mode de la musique au noyau. Le troisième ralentissait. Ralentissait pour ne pas dépasser le temps qui passe. Ralentissait pour ne pas arriver avant d'être né. Soufflez, respirez. Ne dérangez pas les tueurs de petites bêtes, les hésitants du bonheur, les dévoreurs d'espace. Ralentissez. Le temps commence à compter dès que vous ralentissez. Voilà, puis 3-4 apocryphes. Que voici. Flora Tristan n'a jamais su qu'elle était la grand-mère de Paul Gauguin. À la fin de sa vie, Stéphane Mallarmé était devenu si sensible au vertige qu'il s'encordait sur sa chaise avant d'entamer une nouvelle page blanche. Deux citations pour terminer. Quand j'achète un kilo de palourde, j'ai toujours peur d'être volé sur le poids. Alexis de Saint-Léger-Léger dit Saint-John-Perse. Yvonne Printemps ne passera pas l'hiver. Pierre et Tex. Voilà pour aujourd'hui. Au revoir.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores, au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.